24 01 80 20 39 21. À demain, d'ici là, portez-vous bien, ne faites rien que nous ne ferions pas, parce qu'on vous a à l'œil. Ciao.
Au carillon de repas, il est 22h et c'est Guillaume Lariche qui vous présente les informations ce soir. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Valérie, bonsoir à tous.
Europe 1 Nuit Week-end. Guillaume Lariche.
Le Moyen-Orient serait-il sur le point de s'embraser? Les signaux se multiplient, en tout cas comme la Jordanie qui a décidé de fermer ce soir son espace aérien. Un bateau lié à Israël avec 25 membres d'équipage a été saisi par l'Iran. Les États-Unis demandent la libération immédiate du navire. De l'autre côté de la Terre, c'est le petit matin en Australie. Les 5 millions d'habitants de Sydney se réveillent groggy par l'attaque au couteau survenue ce samedi dans un centre commercial. Au moins 6 morts et 8 blessés, aucune piste n'est écartée. À Strasbourg, le gérant du magasin Geox voit sa boutique protégé par la police. Il a reçu plus de 5000 appels malveillants depuis la diffusion d'une vidéo où il explique à une intérimaire qu'elle ne peut travailler chez lui en étant voilée. Pourtant, la loi est du côté de ce manager. À 2 jours de l'entrée en vigueur du contrôle technique pour les deux roues motorisées en France, 38 000 motards en colère ont défilé aujourd'hui dans plusieurs villes de France. Et puis enfin, en tennis, Novak Djokovic voit sa place en finale du tournoi de Monte-Carlo s'envoler. Le numéro 1 mondial s'est fait éliminer dans le dernier carré par Casper Ruud, finaliste lors des deux derniers Roland-Garros.
Europe 1.
Alors que les États-Unis craignent une riposte de l'Iran contre Israël, Joe Biden est retourné à la Maison-Blanche pour des consultations urgentes face à la montée des tensions au Moyen-Orient. Des troupes américaines font route vers cette région du monde où l'Iran a saisi dans le Golfe un navire lié à Israël. La Maison-Blanche demande la libération immédiate du navire. Caroline Baudry.
Oui, navire qui bat pavillon portugais avec à son bord 25 marins indiens, philippins, pakistanais, russes, estoniens. Le bateau est sous propriété britannique et a donc été approché par un hélicoptère iranien près du détroit de Dormouz avant un abordage. Fait inhabituel. Joe Biden, vous le disiez, a écourté son week-end. Les États-Unis réaffirment leur engagement inébranlable en faveur de la sécurité d'Israël, qui annonce ce soir la fermeture des écoles et la réduction de ses activités pendant au moins 2 jours. La population est appelée à la vigilance et à la responsabilité. Les rassemblements seront limités à 1000 personnes dans le pays, avec une jauge réduite près des frontières. Selon le porte-parole de l'armée, des dizaines d'avions patrouillent dans le ciel préparé. Je cite, la Jordanie a annoncé fermer ce soir son espace aérien. L'Iran avait promis de riposter après une frappe meurtrière le 1er avril contre son consulat à Damas imputé à Israël. Joe Biden a dit hier qu'il s'attendait à ce que l'Iran passe, je cite, bientôt à l'action.
Et pendant ce temps-là, dans la bande de Gaza, le Hamas a remis sa réponse aux médiateurs égyptiens et qatariens sur une proposition de trêve avec Israël. Le parti politique terroriste réaffirme vouloir un cessez-le-feu permanent avec le retrait de l'armée israélienne de toute la bande de Gaza. Le Hamas demande aussi le retour des déplacés dans leur zone, plus d'aide humanitaire et le lancement de la reconstruction. Par ailleurs, sachez que les livraisons françaises d'armes à Israël ne seront pas stoppées. Le tribunal administratif de Paris a rejeté une requête d'Amnesty International pour obtenir cette suspension. En Australie, la journée de dimanche commence tout juste. Il est 6h du matin à Sydney, ville secouée ce samedi par une attaque au couteau. Au moins 6 morts, plusieurs blessés. Tout s'est déroulé ce samedi après-midi dans un centre commercial bondé en raison du début des vacances scolaires, Wilfried de Villers.
Oui, vers 16h, heure locale, le centre commercial, vous le disiez, noir de monde, quand un homme armé d'un grand couteau se met à courir et à frapper de tous côtés. Passé la sidération, la panique gagne les clients qui tentent tant bien que mal de se réfugier, de se barricader dans les boutiques ou tout simplement de quitter le centre commercial où une sirène d'alarme est rapidement déclenchée. Sur les images des caméras de surveillance diffusées par les médias australiens, on voit plusieurs victimes gisant au sol. Au total, 6 personnes sont tuées dans l'attaque, 8 autres blessées, dont un bébé de 9 mois, sauvé par cet homme qui témoigne au micro de la chaîne australienne Nine News.
On faisait du shopping quand on a vu cet homme courir vers une femme avec son bébé. J'ai dit à mon frère de lui faire signe. On s'est précipité vers une boutique et on a verrouillé les portes. La mère et son bébé saignaient. On les a mis rapidement en sécurité avant de courir chercher de l'aide.
La mère de l'enfant, elle, n'a pas survécu à ses blessures. La course meurtrière de l'assaillant s'arrête quand il est abattu par une policière. Pour l'instant, peu d'informations sur le profil de cet assaillant. Il n'a pas encore été formellement identifié, mais il semblerait qu'il s'agisse d'un homme de 40 ans déjà connu de la police et de la justice. L'enquête prendra du temps à préciser la police australienne qui n'écarte aucune piste, mais a d'ores et déjà fait savoir que la piste terroriste n'est pour l'instant pas privilégiée.
Et l'actualité à l'étranger, c'est aussi le sud de la Turquie où 29 personnes sont toujours bloquées au-dessus du vide après l'effondrement hier d'un pylône d'un téléphérique. 10 personnes ont été blessées après avoir chuté de ce moyen de transport situé dans la station balnéaire d'Antalya. L'accident a coûté la vie à une personne.
Europe 1 Nuit Week-end. Guillaume Larriche.
Europe 1, bientôt 22h05. La boutique Geox à Strasbourg a reçu au moins 5000 appels malveillants depuis la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux de son manager. L'homme a été filmé par une vendeuse intérimaire à qui il signifiait, comme la loi lui permet, d'interdire de travailler dans sa boutique de chaussures en portant le voile musulman. Ce harcèlement est le fruit de la vidéo postée par la jeune femme sur les réseaux sociaux. Les images comptent plusieurs millions de vues. Par peur des représailles, les forces de l'ordre veillent à proximité de la boutique Geox. Tatiana Gezmelan.
Oui, d'ailleurs, dès 8h ce matin, un camion de police est venu se garer devant l'entrée du magasin et trois policiers patrouillent en continu aux abords de la boutique. Alors en cette journée ensoleillée, les clients sont malgré tout nombreux à venir acheter des chaussures, mais deux vigiles surveillent toutes les entrées et sorties. Et comme vous l'avez dit, la tension est palpable. Tout à l'heure, alors que je me trouvais devant le magasin, une trentaine de personnes participant à une manifestation en soutien à Gaza a poussé des huées en passant devant Geox. Écoutez. Au moment de leur passage, six policiers, dont certains en civil, ont formé un barrage devant l'entrée du magasin pour éviter toute attaque. La manifestation a donc continué sa route sans heurts, mais même les commerçants alentours sont affectés. Tous disent soutenir le gérant du Geox, mais ils refusent de parler au micro. On a peur des représailles, m'a expliqué tout à l'heure une vendeuse.
Tatiana Gezelman, correspondante Europe 1 dans l'Est de la France. En Essonne, le père de famille ayant reconnu hier avoir tué ses deux enfants a vu sa garde à vue prolongée aujourd'hui. Leurs corps ont été découverts dans un champ de ce département situé au sud de Paris. Les autopsies de la petite fille de 3 ans et de son frère de 20 mois devaient avoir lieu ce samedi. Le parquet d'Evry précise qu'une plainte pour violence conjugale contre le tueur présumé de 34 ans avait déjà été déposée contre lui par sa compagne. La Fédération des motards en colère a manifesté cet après-midi dans plusieurs villes de France. Mouvement contre le contrôle technique obligatoire dès lundi pour les motos, scooters et autres quads de plus de 5 ans. Des opérations escargots à coups de klaxon, mais aussi coups d'accélérateur ont été constatées, c'est le cas dans le Nord, à Seclin, Maximilien Carlier.
Veste en cuir et moteur hurlant, un millier de motards rassemblés sur ce parking. Non au contrôle technique, nous ne sommes pas des vaches à lait, voici les messages affichés sur la moto de Jérôme.
Nous, on entretient nos propres machines. Donc je ne vois pas pourquoi on va nous imposer encore un contrôle technique supplémentaire alors qu'on a les machines en état. Donc je fais, voilà, c'est... Et puis question d'oseille, surtout, c'est encore un truc qui va bien nous coûter cher.
Entre 50 et 100 euros, ajoute-t-il, tout cela pour engraisser les centres qui vont proposer ces contrôles techniques. Une mesure censée accroître la sécurité des deux roues. Faux, répond Mathieu Gilotz, membre de la Fédération française des motards en colère.
L'état de la moto n'est responsable que dans 0,3% des accidents de motards. Vous avez déjà vu une voiture qui a des pneus mal gonflés? Est-ce que vous avez déjà vu une moto qui fait la même chose? Non. Pourquoi? Ben parce que vous enlevez 300 grammes de pression sur un pneu de moto, la moto ne tient plus la route. Et donc, le motard engage sa santé, sa vie sur cette moto.
Mieux vaut s'occuper de l'état des routes, dénoncent ces motards qui envisagent pour la plupart de boycotter le contrôle technique mis en place à partir de lundi. Seclin, Maximilien Carlier, Europe 1.
Europe 1, 22h08. Alors avant de retrouver l'actu sport, voici l'interview d'Europe 1 Soir Week-end. Pierre de Villeneuve a reçu la sénatrice de Paris et d'Europe Écologie Les Verts et porte-parole du groupe écologiste au Sénat.
Bonsoir Anne-Souri.
Bonsoir.
Comment est-ce que vous qualifieriez votre campagne des Verts donc aux européennes ?
Une campagne qui est compliquée parce que sous le sceau de beaucoup d'utilisation d'une situation politique compliquée, hein, celle qui n'est pas du tout portée par nous, mais qui est aussi portée par un gouvernement qui va complètement contre les engagements écologiques qu'il avait pris au départ et qui finalement lève les uns contre les autres, notamment les agriculteurs contre une écologie alors que la situation n'est pas du tout celle qui est dite par le gouvernement. Quand on entend que ce sont les écologistes qui ont fait les normes européennes, alors même que nous n'avons jamais été au pouvoir directement en France ou en Europe, en tout cas majoritaire, c'est une aberration.
Donc, vous ne diriez pas que les Grünen, justement, allemands, auraient quand même fait quelques normes européennes écologistes, à bon escient d'ailleurs, pas forcément, on n'est pas toujours dans la critique.
Alors, nous avons en tout cas participé de normes, bien sûr, qui sont protectrices. D'ailleurs, même...
C'est le but, hein, oui.
Bien sûr, qui sont protectrices pour les agriculteurs eux-mêmes. Non seulement pour notre santé à tous, mais pour les agriculteurs eux-mêmes. Vous savez, quand c'est hors partie, ces histoires-là. Quand on entend cette semaine ou la semaine dernière qu'en Camargue, une maire LR dit « Eh bien, moi, je voudrais qu'on protège mes rizières d'un pesticide extrêmement grave qui, tout d'un coup, est autorisé par notre gouvernement français, et ben voilà, on est là, on en est là, et que tout d'un coup, alors que c'est une nouvelle loi qui permet, c'est-à-dire que c'est depuis 2021, c'est complètement absurde, et on va dans le sens inverse de l'histoire.
C'est intéressant, parce que je vais essayer de prendre point par point, parce que là, il y a beaucoup d'informations que vous nous révélez ou divulguez. D'abord, vous avez dit, on comptait sur plus de soutien du gouvernement envers l'écologie, d'une manière générale, pour le pays. Mais là, en l'occurrence, comme toute élection, c'est une bataille. Donc vous êtes là pour dire non, là vous vous plantez, là je ne suis pas d'accord avec vous, là vous devriez faire ceci et non pas cela. Donc vous avez de la matière à justement pour contrer la liste Renaissance de Madame Valérie Ayé. Et puis ensuite vous me dites, il y a cette maire, les Républicains en Camargue, qui voudrait avoir notre soutien. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que l'écologie est un... appelez ça comme vous voulez, une philosophie, un dogme, une responsabilité de chacun, une chose avec laquelle tout le monde vit, et dans ce cas-là, elle ne devrait pas être, j'allais dire, encartée dans un seul parti, en l'occurrence Europe Écologie Les Verts, devenus les écologistes, mais elle devrait appartenir à tous, et notamment à cette maire LR qui voudrait qu'on protège ses rizières.
Nous sommes parfaitement d'accord. Elle devrait appartenir, l'écologie appartient à tout le monde. Elle ne devrait pas, d'ailleurs.
Donc à quoi sert votre parti?
Eh bien, le fait est qu'elle n'appartient pas à tout le monde.
De quelle façon?
Vous voyez bien qu'un certain nombre de partis politiques ne protègent pas l'écologie, ne font
vous
pas en
sorte... Vous diriez ça de qui, par exemple? De Renaissance?
De Renaissance.
Pourquoi? Parce qu'ils accordent des traités de libre-échange? Parce qu'ils ne sont pas complètement sur votre ligne?
Il y a une telle liste. Quand Renaissance, effectivement, remet... Enfin, Renaissance, en tout cas, le gouvernement actuel et M. Macron remet le glyphosate en circuit, ça n'est pas écologiste et c'est un drame pour toute la France et même pour l'Europe.
Mais est-ce que ce ne sont pas les agriculteurs qui sont venus en disant « Écoutez, nous, on ne peut pas vivre sans glyphosate, on ne peut pas continuer. »
Je suis d'accord, mais il fallait leur donner... Parce que eux, ce qu'ils attendent, c'est une réponse, c'est comment faire cette transition, c'est comment vivre. Parce que pour l'instant, on leur interdit des choses, et puis après, on les laisse tout seuls. Alors, évidemment, ils ne peuvent que se révolter, parce qu'ils ont un problème vraiment de survie, les agriculteurs en France. Donc nous, par exemple, on a proposé un revenu agricole pour eh bien, c'était...
Un revenu agricole, mais sans glyphosate.
Un revenu agricole sans glyphosate, ok. Mais Renaissance est contre, le gouvernement est contre. Vous voyez, cette semaine...
Mais ils sont contre parce qu'ils ont une raison. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand ils vous disent « on est contre » C'est juste « on est contre pour être contre ».
Ils nous disent « c'est pas le moment ». Ils nous disent, par exemple, sur le...
Ça va trop vite. Peut-être que c'est ça. Est-ce que l'écologie, d'une manière générale, même si tout le monde le sait, et je pense que les Français en ont bien conscience, ça s'est beaucoup accéléré ces dernières années, depuis à peu près 2020, où ça s'accélère vraiment, et notamment au niveau de la politique de la voiture, sur la voiture électrique, les constructeurs ont le pistolet sur la tempe de la part de Bruxelles, parce que effectivement il y a un réchauffement, et on le constate même dans notre vie de tous les jours, on n'a jamais eu autant de tornades, de tempêtes, ici même en France. Donc ça, les gens sont conscients, mais comment est-ce que vous voulez avancer? Est-ce que ça ne va pas trop vite aussi pour les gens? Est-ce que ça ne va pas trop vite pour les agriculteurs qui disent « Moi, si on m'arrête tel ou tel engrais qui peut être gênant pour la planète, à un moment donné, je ne vais plus pouvoir payer mes factures en fin de mois ?»
La question, c'est de se dire « Est-ce que, effectivement, on a une alternative ?» Oui, il y a des possibilités alternatives de faire une agriculture. Sauf que ça ne se fait effectivement pas du jour au lendemain. Nous, on ne préconise pas une baguette magique, car on a des solutions, mais ça veut dire qu'il faut aider les agriculteurs. Actuellement, ils ne sont pas assez soutenus. Ils ne sont pas soutenus dans les démarches de transition. Et puis, le fait, effectivement, mais ça a été dit aussi par M. Piketty ce matin dans Le Monde, et c'est dit à plusieurs reprises, c'est qu'en fait, il faut aussi faire des lois qui protègent l'Europe de produits phytosanitaires dangereux et qui finalement sont vendus à bas prix en France ou en Europe, qui font que ça fait de la concurrence déloyale. Tout ça, c'est possible à faire. Et ça, on peut même avoir de l'argent dans les caisses grâce à ça. On ne le fait pas. Donc c'est un choix politique. Ça n'est pas qu'une question de lenteur, c'est un choix politique.
Vous avez parlé d'une campagne compliquée, plusieurs choses. On a parlé de Renaissance. Vous êtes ce week-end en Conseil fédéral. Mm-hmm. Vous êtes à 6,5% dans le dernier sondage IFOP. Et j'imagine que ce n'est pas forcément le score dont vous rêviez. Pourquoi est-ce que, c'est une question qu'on vous pose souvent, vous les Verts, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait une liste commune, pas forcément avec LFI, mais au moins avec Place Publique de Raphaël Glucksmann ?
Alors vous savez, les élections européennes, à la différence de toutes nos élections françaises, c'est des élections qui sont complètement proportionnelles. Donc il n'y a aucun intérêt spécifique à faire des alliances a priori. On fera des alliances, évidemment, à des moments spécifiques, sur des projets spécifiques, quand on sera avec d'autres pays. Mais là, le faire, c'est quand vous alliez avec quelqu'un, vous arrêtez. En fait, il y a des choses, vous faites des choix. Pourquoi faire des choix alors qu'on voit que, au Parlement européen, le groupe socialiste, je ne parle pas du groupe socialiste français, je parle du groupe socialiste européen, vote des choses qui ne vont pas dans le sens de l'écologie. Donc c'est important d'avoir un groupe écologiste fort. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas d'accord avec M. Glucksmann sur un certain nombre de choses, mais nous ne sommes pas d'accord avec d'autres personnes comme Carole Delga qui protège la 69. Vous voyez, donc,
elle a des intérêts régionaux, comprend.
Mais moi, je veux bien la comprendre. Mais en tout cas, il faut faire des choix politiques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc nous, on propose des choix politiques. Ça ne voudra pas dire qu'on ne s'alliera pas pour arriver à certaines choses. Vous savez, quand j'entends que les socialistes européens vont voter le pacte immigration cette semaine en Europe, eh bien ça ne nous va pas. C'est pas notre vision d'une Europe démocratique et d'une Europe solidaire.
Pour l'instant, M. Glucksmann a dit qu'il ne voterait pas ce pacte asile et immigration.
Oui, mais il se trouve que le groupe où il sera inscrit le votera. C'est un problème.
Une dernière question. Il y a quelques médias, et notamment nos confrères de Politico, disent qu'il y a du rififi chez les Verts, que personne ne s'entend, que Marine Tondelier vous mène à la baguette, qu'il faut mettre un petit peu d'ordre, qu'il y a l'affaire Bayou qui revient sans cesse dans les discussions, que Dominique Voynet aussi prend position. Alors elle revient d'un peu loin, puisque c'est une figure lointaine, mais que vous avez peut-être connue dans votre carrière politique. Est-ce que ça va bien à l'intérieur des Verts ?
Alors déjà, pour nous mener à la baguette, les écologistes, je pense qu'il faut se lever tôt. Non,
peut-être une baguette en bois recyclé.
Non, Marine Tondelier ne nous mène pas à la baguette. Il y a beaucoup de débats, vous savez, toujours, mais je pense qu'on est à peu près le seul parti qui est assez horizontal. Alors ça fait du rififi, ça fait des débats, ça fait beaucoup de choses qui sont souvent difficiles à comprendre de l'extérieur, mais je pense que c'est le parti où il naît encore des idées. Je pense que c'est bien le seul et qui justement n'est pas enfermé dans un populisme ou dans quelque chose qui est complètement vertical. C'est une qualité. Après, ça, je suis d'accord avec vous, il y a des défauts à ça. Des fois, on est incompréhensible et c'est un problème. Donc,
vous appelez-vous aussi à la raison ? Vous appelez aussi à un petit peu plus de verticalité ?
Non, j'appelle à trouver pas du tout. Des résolutions, par contre, des modes de résolution plus. Mais je crois qu'on y travaille. Je crois que le nouveau parti qu'on est en train de fonder avec les écologistes va dans ce sens-là. Donc, j'espère qu'on va y arriver ensemble.
Europe 1 Nuit Weekend.
Guillaume Larriche.
Europe 1, 22h17, plus qu'un seul club français dans la Champions Cup de rugby. Toulouse jouera demain pour une place dans le dernier carré. Cet après-midi de samedi, Leinster a battu La Rochelle 40-13. Plus tôt, Bordeaux-Bègles a été éliminé de justesse par les Londoniens des Harlequins, 42-41. Par ailleurs, en quart de finale du challenge européen du ballon ovale, Clermont s'est imposé contre Ulster 53-14. La 29e journée de Ligue 1 de football et la défaite de Reims à Strasbourg 3-1. Rennes, Toulouse actuellement avec les Toulousains qui mènent 2-1. Et en marge de cette rencontre, une bagarre entre supporters toulousains et rennais a fait 10 blessés côté toulousain en début d'après-midi. L'un d'eux a dû être hospitalisé pour un possible traumatisme crânien. Enfin, le finaliste des deux derniers Roland-Garros a battu Novak Djokovic aujourd'hui dans le dernier carré du Masters 1000 de Monte-Carlo pour obtenir sa place en finale demain contre le grec Tsitsipas. Casper Ruud a dominé le numéro mondial de tennis au bout de 3-7. Victoire du Norvégien de 25 ans, 6-4, 1-6, 6-4. Lors de la rencontre, Djokovic a laissé apparaître apparaître des signes de fatigue, Christopher Filhoc.
Eh bien, Novak Djokovic s'était qualifié dans le dernier carré de la compétition, une première depuis 2015. Auteur d'une saison dernière sensationnelle, hein, 3 grands chelems, 2 Masters 1000, le Serbe marque le pas depuis le début de l'année. Pas de titre à son actif. À Monte Carlo, l'homme aux 24 titres en grand chelem n'a pas affiché un niveau de jeu extraordinaire et a même semblé très marqué par la chaleur, notamment lors de son quart de finale au micro d'Eurosport.
Ça a été dur, beaucoup de fatigue, j'ai souffert sur le court physiquement, je ne sais pas qu'est-ce qui passe, mais ce n'est pas mon niveau meilleur, mais je tous les jours cherche pour mon niveau maximum.
Auteur de 32 fautes directes, Novak Djokovic a alterné le bon et le très moyen, finissant même sur une double faute. Il avait déclaré avant le tournoi qu'il n'avait pas de réelles attentes, mais le Serbe a réussi à se hisser jusqu'en demi-finale sans produire un tennis extraordinaire. De quoi prendre des repères pour Roland-Garros où il sera certainement plus en maîtrise.
Allez, le temps à présent. Bonsoir Anthony Kaczmarek. Après avoir eu jusqu'à 32 degrés ce samedi dans l'Aude, les températures vont baisser.
Bonsoir Guillaume. Oui, une baisse surtout pour la moitié nord, hein, avec des valeurs qui vont redevenir plus raisonnables pour la saison, plus d'excès comme aujourd'hui. 13 degrés à Cherbourg demain après-midi, 15 à Brest, 16 à Lille, 20 degrés pour Paris, mais dans la moitié sud et même dans l'Est, ça va rester très chaud pour la saison. 26 degrés à Dijon, à Strasbourg, à Clermont-Ferrand et à Marseille, 27 à Bordeaux, 28 à Toulouse et Saint-Etienne, 30 pour Carcassonne, et puis au réveil, douceur encore pour cette époque de l'année, en tout cas avec souvent entre 7 et 13 degrés. La moitié sud, demain, aura encore le droit à un très beau soleil, malgré quelques brumes côtières possibles en Aquitaine ou encore vers les Bouches-du-Rhône. Et puis, dès la fin d'après-midi, quelques averses ou même quelques orages pourraient se déclencher vers les reliefs. D'abord sur le Massif central, puis en soirée vers les Pyrénées et peut-être les Alpes, où d'ailleurs le risque d'avalanche sera très fort. Dans la moitié nord, une simple dégradation nuageuse, ce sera donc moins bleu qu'aujourd'hui, avec des nuages de plus en plus fréquents au fil des heures, un ciel même de plus en plus gris près des côtes de la Manche, avec quelques gouttes possibles en fin d'après-midi sur la Bretagne.
Merci Anthony Kaczmarek pour vos prévisions. Europe 1, 22h21 à la seconde. Et sans chicane, Valérie Darmon pilote la libre antenne sur Europe 1 d'une main de velours, dans un gant de velours, jusqu'à 1h du matin. Elle vous tient la main pour joindre Valérie. Vous pouvez l'appeler au 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Guillaume, j'espère, dans un gant de velours. Parfois un peu de force aussi, hein, pour bouger.
De la justesse.
De la justesse, du juste milieu, voilà. La troisième voie, en fait, on appelle ça en thérapie. À tout à l'heure, Guillaume, on se retrouve à 23h pour un nouveau point sur l'info.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe 1, 22h, 1h.
La libre antenne.
Valérie Darmon.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre libre antenne. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble sur Europe 1 jusqu'à 1h du matin. Juliette et Nicolas sont à mes côtés pour prendre vos appels au standard au 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé. Vous pouvez aussi nous laisser des SMS au 7 39 21 suivi du mot nuit. Vous pouvez nous joindre sur la page Facebook de l'émission et à l'adresse libreantenne@europe1.fr. Benoît est à la réalisation et moi à votre service. La citation de ce soir est de Grégoire Delacour dans « Danser au bord de l'abîme ». Je crois que l'on trébuche amoureux à cause d'une part de vide en soi, un espace imperceptible, une fin jamais comblée. Si nous pouvons combler un peu notre vide ensemble sur l'antenne d'Europe 1 ce soir, n'hésitons pas, la libre antenne de ce samedi, c'est parti.
En toute confiance, appelez maintenant Valérie Darmon au 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, Europe 1.
Bonsoir Michael.
Oui, bonsoir. Comment allez-vous depuis hier ?
Je vais bien. Et vous-même, avez-vous passé un samedi ensoleillé comme la majorité d'entre nous, voire l'ensemble du pays ?
Oui, très bien, très bien. C'est super bien passé. On a vu beaucoup d'amis et voilà, c'était très bien. Donc voilà, un bon moment.
Donc vous avez pu vous changer un petit peu les idées, parce que je rappelle l'histoire que vous aviez commencé hier soir à peu près à 1h moins le quart du matin. Vous nous racontiez que votre fille de 11 ans est à deux doigts d'être placée en famille d'accueil, ou elle l'est peut-être même, il me semble.
Elle est déjà placée depuis le 15...
mi-septembre.
Voilà.
Elle avait pourtant donné son avis durant l'audience. Et elle a quand même été placée, elle n'a pas été entendue. Et pourtant, elle avait déclaré que vous vous occupiez très bien d'elle et qu'elle ne voulait pas aller chez sa mère. On en était hier et je vous avais promis, et chose promise, chose due, de poursuivre avec vous votre histoire ce soir sur l'antenne d'Europe 1 dans la libre antenne. Donc je vous écoute pour la suite en fait de votre histoire. Et vous nous disiez que vous étiez un peu démunie, dépitée et désarmée.
Oui, parce qu'en fait la justice a du mal à gérer. Je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, parce que je vois dans des forums sur internet des parents qui sont complètement démunis comme moi de certaines situations compliquées avec leurs ex, et puis la justice qui se met à juste titre par moment dans ces histoires pour régler le démêlé de chaque histoire. Les démêlés avec la maman, il y en a eu des deux côtés. Donc en fait, là, il n'y a aucun souci concernant ces actes. Cependant, avec ma fille, il n'y en avait pas. Il y avait un très bon relationnel. J'ai 45 témoignages d'attestation CERFA qui prouvent comment les gens me perçoivent avec ma fille et la relationnelle que j'ai avec ma fille qui est très très bon, et voilà. Donc sauf que ces personnes-là sont mandatées par des services sociaux, et ces services sociaux, quand ils vous cataloguent d'une manière qui est pas forcément celle
la réalité,
on s'attend dans la réalité.
On le sait dans la libre antenne, Olivier Delacroix et moi, puisqu'on a beaucoup de témoignages allant dans ce sens, d'abus des services sociaux, même s'ils protègent aussi un grand nombre d'enfants, on va quand même leur rendre aussi hommage. Ouais.
Donc ça, je ne mets pas en exergue ça, je mets juste la manière des procédures qui sont mises en place. Pour ma part, j'ai fait de la garde à vue. La maman avait dit que je faisais du harcèlement, alors qu'en fait, le seul, à dire entre guillemets, harcèlement que j'ai fait envers elle, c'était pour protéger ma fille et lui dire de faire attention à mon enfant. Et donc, dans le sens de faire son... Alors, je veux pas dénigrer la maman, hein, c'est pas du tout mon objectif, parce que je lui avais demandé de faire son rôle de maman. Et dans les comptes rendus des services sociaux, c'est marqué noir sur blanc l'ambivalence de la maman par rapport à sa manière d'être et de par rapport à mon enfant. Ça, c'était en 2020. En 2022, la juge qui a placé ma fille avait demandé aux services sociaux d'aider mon ex à retrouver son rôle de mère. Donc, ce que moi je disais maladroitement à mon ex.
La garde à ce moment-là était alternée, Michael.
Disons qu'elle avait ressaisi le JAF pour demander ma destitution des droits parentaux et m'exclure complètement de la vie de ma fille, en fait. La justice a cherché, donc par chance. La JDE, après une enquête sociale, avait statué une garde
partagée.
Une garde partagée, mais une garde plus à l'avantage de la maman.
D'accord.
Donc on faisait 6 jours pour moi et 8 jours pour la maman. Mais même là, c'était même un combat, parce qu'en fait, là aussi, je comprends pas l'intervention des services judiciaires qui statuent une garde alternée, parce qu'on faisait au départ, on faisait du vendredi 16h30 au vendredi 16h30, ce qui nous empêchait, moi et mon ex, de me voir. Et ce qui était très bien pour l'état physiologique et l'état psychologique de ma fille. Et du jour au lendemain, les juges, dans une deuxième audience, par rapport à ce que demandait mon ex, à statuer toujours une semaine, on garde alterné plus ou moins, mais du jeudi au jeudi. Donc là, ma fille, elle était ballottée déjà pendant la semaine, dans la semaine d'école et chez les parents, deux fois dans la semaine.
À la demande de qui, à la demande de qui ça a été revisité, ce mode de garde ?
À la demande de la maman.
Et c'était quoi son intérêt ? Qu'est-ce qu'elle avait demandé ? Ah, parce qu'au départ, elle avait demandé la destitution de vos droits, et c'est pour ça qu'ils ont restatué de jeudi à jeudi. C'est ça ?
Voilà. Alors, c'est là où toutes les situations s'enchaînent, et j'ai beau essayer de le faire entendre et de le faire valoir. On me prend pour quelqu'un qui dénigre la maman, alors que c'est pas du tout le cas. J'essaie de faire juste valoir mes droits et défendre mon enfant. À savoir que quand ça a été demandé, et voilà, je vous jure, ce que je vais vous dire, c'est une triste situation. Quand j'ai reçu moi le courrier des services juridiques demandant que mon ex demandait la garde exclusive et la destitution des droits parentaux et qu'on allait passer en audience. J'avais ma fille avec moi que je ramenais de son sport, notamment la natation. Et donc je l'ai déposée chez la maman et je lui ai posé la question pourquoi tu demandes la destitution des droits parentaux ? Est-ce que tu estimes que je suis un mauvais père ? Sur à quoi elle a répondu ? Pardon. Pardon.
Prenez votre temps, Michael.
Elle a répondu si tu avais accepté de me donner la plus-value, jamais j'aurais fait ça pour Lucie.
La plus-value ? Donc, en fait, c'est-à-dire qu'elle demandait une contribution financière.
Voilà, en fait.
Elle vous fait payer en instrumentalisant la petite. Elle vous fait payer le fait que vous n'avez pas voulu lui donner ce qu'elle demandait.
Voilà. En fait, on avait une maison en commun, et de cette maison en commun, on a réussi à vendre. Moi, j'ai fait des travaux dans la maison. Elle est partie vivre chez ses parents. Heureusement qu'on a payé chacun notre part de crédit à 90%, 95%, on a payé notre part de crédit. Mais elle a décidé de partir vivre chez ses parents. Et moi, en fait, j'aurais dû aller faire un signalement à la gendarmerie pour dire qu'elle quittait le truc conjugal.
Le domicile conjugal, oui.
Voilà. Et en fait, de ne pas avoir fait ça, mon ex a demandé, donc, a bloqué la plus-value de 9000 euros, voilà, 9000 euros. Et au jour d'aujourd'hui, elle me demande 15000 euros de frais d'occupation sur une maison qui n'était pas louable à l'époque. Enfin, qui n'était pas louable.
Elle vous demande, en fait, elle vous demande des loyers, parce que vous êtes resté dans la maison la maison familiale, et elle vous demande donc des loyers, ou la moitié peut-être de ce qu'elle aurait imaginé être un loyer, puisqu'elle était partie,
exactement.
Elle.
Exactement.
Mais vous avez des avocats, de toute façon, pour vous séparer, pour divorcer.
Alors, justement, il y a des documents officiels qui ont été lus en partie par l'avocat de la partie adverse. Mon avocate n'a pas fait attention à ce que je lui avais demandé de dire par rapport à ces documents-là. Donc, ça n'a pas été clairement précisé lors de l'audience. Même en appel, et les juges qui n'ont pas le temps de regarder au fond du problème statuent par rapport à ce que disent les avocats. L'avocat de mon ex a été très fort, oui, très fort d'ailleurs, je trouve qu'il est très très bien, et très très compétent. Je pense que la mienne aussi, mais elle était moins compétente sur ce domaine-là. Et en fait, elle a occulté ce que je lui avais dit, parce qu'il y a trop d'affaires en fait. Les avocats sont surchargés, et ils ne pensent pas à tout. On ne va pas jeter la pierre à pierre. Mais au jour d'aujourd'hui, la situation financière à l'origine, la mise en place de la mise en place de ma fille placée au jour d'aujourd'hui, c'était en fait parce que je n'ai pas donné la plus-value à mon ex au moment où elle l'a demandé, c'est-à-dire, ça fait, si je fais un résumé, depuis 2000, On a vendu la maison le 27 décembre 2018. Ouais. Le 27 décembre 2018. Elle a bloqué la plus-value. Alors ça, je ne sais pas si la notaire avait le droit de le faire parce qu'on était à 50-50 sur le bien. Donc, elle a quand même bloqué la plus-value. À cause de ça, j'avais proposé quand même 2000 euros sur cette plus-value. Elle n'a jamais voulu. De là, elle m'a pris... elle a saisi le JDE pour donc en mai 2019.
C'est quoi le JDE, Michael, pardonnez-moi?
Le juge des enfants.
Ah oui, d'accord.
Pour
oui.
Justement le nouveau mode de garde alterné. Et ma fille, ce que je vous expliquais, c'est qu'elle était ballottée pendant ma semaine. En fait, le lundi, pendant ma semaine, elle retournait chez sa maman. Donc, en fait, pendant la semaine, ma fille était ballottée deux fois dans la semaine quand elle était avec moi, en fait. Donc en fait, je ne donne pas le bien-être de l'enfant à ce moment-là.
Et inversement.
Non, parce que la maman, elle a lavé continuellement pendant 8 jours. Donc en fait, une fois qu'elle était chez la maman, elle faisait son rythme normal avec sa maman. Et moi, pendant ma semaine, elle a été coupée deux fois. Donc en fait, pour le bien-être de ma fille, c'était très compliqué à gérer. Au niveau scolaire, elle a beaucoup baissé, puisque forcément...
Logique, oui, bien sûr.
Elle a beaucoup baissé, elle a eu du mal à se mettre en place, d'ailleurs, même c'était signalé sur les comptes rendus d'école. Et puis est intervenu les services sociaux, où ils ont statué que Madame Malin...
On ne cite pas les noms sur l'antenne d'Europe 1. Voilà. Pardon. Hein, voilà.
Pardon, que la maman de ma fille était ambivalente et que en fait ça pouvait porter atteinte à ma fille. C'est marqué sur les comptes rendus. Hein. Ce que je vous dis, c'est marqué sur les comptes rendus. Hein. C'est pas moi. Que mon attachement avec ma fille et les relations que j'avais avec ma fille étaient très bonnes, mais qu'en fait ils avaient statué de laisser la garde à la maman et de me suspendre un petit peu les droits, c'est-à-dire de lui donner une part plus importante de... Oui,
deux jours de plus que vous, sauf que ça joue beaucoup quand il s'agit de notre enfant, bien sûr.
Et surtout que dans le contexte que je vous raconte, donc moi j'avais proposé à mon ex de faire 6 jours pleins pour moi et 8 jours pour moi pleins, du vendredi au vendredi, je l'ai envoyé par mail, donc c'était en 2020, je crois, si je ne me trompe pas, en 2020. Et ce à quoi elle m'a répondu, vu que c'est toi qui veux commander, je refuse. Alors qu'elle ne pensait pas du tout à l'intérêt de ma fille. Donc justement, quand les services sociaux, enfin la psychologue de la SCOP, donc la SCOP, c'est ce que je disais hier, les services sociaux plus pour décider d'un placement ou pas d'un enfant, donc cette psychologue de la SCOP a statué l'ambivalence de mon ex, en fait.
Mais vous avez fait appel de cette décision des 8 jours, 6 jours, là?
Oui, non, mais donc, et justement, j'y viens. Mm-hmm. Et donc, mon ex est tiraillé de cette ambivalence d'amour pour ma fille, mais d'une haine contre moi, c'est ce que vous aviez dit ici.
Oui, qu'elle réglait ses comptes à travers la petite contre vous.
Voilà, donc en fait, moi je le dis depuis déjà presque 4 ans que mon ex veut me
détruire,
me descendre en femme, et je rebondirai sur ça parce que donc je suis née avec ma fille. Donc il y a eu, mon ex a réussi à faire croire que je la harcelais. Moi, je suis en condamnation pénale. De là, j'ai fait de la garde à vue. De là, je dois faire un stage pour violence faute de traite aux femmes. De là, j'ai perdu l'autorité parentale. Parce que quand je suis passé à l'audience en appel, parce que la première audience disait que j'avais un sursis simple, j'avais dit que je ferais appel de ce sursis simple parce que j'avais absolument rien à me reprocher de la période où on me demandait et que c'était pas du harcèlement. Mais bon, c'est plus facile d'attaquer que de se défendre. Voilà. Et en fait, j'ai précisé à l'audience en appel pour de cette condamnation pénale. Ça prête à rire, je vais vous dire. Mais je suis interdit d'être élu si je fais de la politique. Je ne sais pas pourquoi.
Pourquoi, oui.
Je ne sais pas pourquoi. C'est marqué dans le compte-rendu judiciaire. Bon, forcément, ça, c'est pas grave, je n'y vais jamais. Donc, du coup,
je ne sais pas. Vous ne comptez pas faire de la politique, de toute façon, Michael ?
Je pense que si, parce que quand on voit comment nos enfants sont protégés, dans quel monde on commence à avancer, ça va être très compliqué. Je trouve qu'on a des. Nos enfants ne sont pas protégés, même on les a même. Bafoué à la période Covid, donc en les stigmatisant comme si c'était des parias, en disant qu'ils allaient tuer leurs grands-parents. Mon rôle, c'est d'abord éventuellement de protéger ma fille. Le premier truc, c'est de protéger mon enfant sur des situations qui sont particulières. Mais là.
Oui, plus largement défendre la cause des enfants, en fait, hein, c'est ça. Dans un second temps. Mais dites-moi, Michael, j'ai quand même une question. Pour qu'il y ait eu tant d'escalades de violence comme ça de la part de votre ex, qui veut vous détruire, et d'ailleurs hier, c'est ce que vous nous confiez aussi, elle vous l'a dit, hein, je crois, ou non, c'est le médecin traitant qui vous l'avait dit.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Il y a quand même, elle a dû fournir des attestations, elle a dû faire des constats auprès de médecins. Il a bien fallu qu'elle prouve tout ce qu'elle avançait.
Ah oui, bien sûr. Moi, je suis pas très diplomate, on va dire.
Vous êtes sanguin. Vous avez un tempérament sanguin.
Je sais bien m'exprimer quand on m'agresse pas, même quand on m'agresse, des fois, je laisse passer. Mais quand ça concerne ma fille, je pense la plupart des parents, si on touche à votre enfant, vous essayez de le défendre au mieux, sans violence.
Bien sûr.
Mais si à un moment donné, vous êtes obligé de protéger votre enfant, vous faites sur le moment T ce qu'il faut au moment T, même si c'est maladroit ou si c'est pas bien vu.
C'est-à-dire que vous vous êtes emporté à plusieurs reprises, c'est ça ? Vous êtes sorti de vos gonds, comme on dit, à plusieurs reprises.
Comme je vous ai dit que je protégeais ma fille, il y a eu des signalements de l'école. Alors, ça va peut-être vous prêter...
confusion.
Non, j'ai aucune confusion. Moi, je peux citer à l'école. Il y a des actions éco-citoyennes qui sont couvertes par le ministère de l'Éducation nationale. Et j'avais dit à ma fille, si tu veux le faire, tu le feras. Si tu veux pas le faire, tu le fais pas. Et en fait, elle avait pas voulu le faire au départ. Dans l'action éco-citoyenne, c'était d'aller ramasser les mégots, les bouteilles de verre, les machins, tout ce qui traînait dans les rues de notre ville. À ce qui paraît, ça fait une trentaine d'années et ça ne change rien. Donc en fait, j'ai un livre, je l'ai trouvé. Vous savez, je pense qu'il y a des situations où on trouve des choses qui sont quand même assez... bizarre, je suis allé dans un magasin par hasard, et c'était Emmaüs d'ailleurs, voilà, et j'ai trouvé un livre qui parle, c'est 365 gestes pour sauver la planète, c'est de Philippe Bourcellier, et il explique un petit peu comment on peut aider la planète à bien aller, voilà. Moi, ce que j'ai pas aimé dans cette action éco-citoyenne, c'est que en fait, nos enfants, donc j'ai fait une pétition. J'ai une centaine de personnes de signatures, de parents, de grands-parents, même de commerçants qui étaient de la ville. Et en fait, et certains d'entre eux m'ont dit, en fait, c'est du travail dissimulé. D'autres ont dit, est-ce qu'ils ont le consentement? Parce qu'en fait, c'est sortir du cadre. C'est sortir du cadre scolaire. Faire des actions éco-citoyennes, on parle beaucoup de la préservation de l'eau, pourquoi pas parler de ça? Pourquoi pas parler de comment faire attention à la terre, et peut-être aller voir des agriculteurs qui expliquent comment ils travaillent.
Il y a tout un panel d'actions éco-citoyennes à mettre en place. Sauf que visiblement, l'établissement avait choisi de mettre celle-ci en place en accord peut-être avec la collectivité.
Le problème, c'est qu'en fait, on a servi nos enfants. Et là, on voulait asservir ma fille. J'étais militaire. Mmh. Je vous jure, ce que je vais vous raconter, c'est vrai. Je vous jure, c'est vrai. J'étais militaire. Et mon rôle, en tant que militaire du rang, je devais nettoyer les rues, la place d'armes, ce qui traînait sur la place d'armes. Je vous jure, c'est vrai. Hein.
Oui.
Donc, j'ai dit à mon chef, j'ai vu qu'il y avait des mégots, je ne les ramasserai pas. Les mégots, si chacun se responsabilise un peu, c'est dans la poche et on les met dans la poubelle. Je suis quelqu'un de très honnête, très ouvert, on peut parler de plein de choses, mais en fait, les gens ne respectent pas leur environnement et ne respectent pas ce qu'il y a. Et en fait, on utilisait nos enfants.
En tout cas, vous avez ouvert le débat, Michael. Voilà, qu'on soit d'accord ou pas, c'est comme le ramassage des déchets sur les plages pour les initiatives éco-citoyennes, hein, c'est la même chose. Mais bon, en tout cas, vous avez ouvert le débat et vous avez été au bout de vos idées en créant une pétition qui a rassemblé 100 signatures.
Mmh.
Et comment s'est terminé, du coup ?
S'est terminé que l'école a fait un signalement contre moi.
Juste pour ça ?
Oui. Les services sociaux ont dit qu'en fait, j'avais déstabilisé ma fille. Alors qu'à l'origine, elle était au courant que j'avais parlé. Et comme j'ai un gros échange avec ma fille, voilà. Donc ça, c'était une chose. Il y a... l'école, derrière, a eu une action, comment on appelle ça, avec une autrice pour écrire, pour faire un truc de poésie avec le prénom et le nom de l'enfant, avec un dessin, etc. Jusque là, je suis tout à fait d'accord. Ça fait partie du protocole, du programme scolaire. Jusque là, je suis d'accord. Par contre, c'était sur 4 classes. Au départ, ça devait être sur 4 classes de l'établissement. Il y a 3 maîtresses qui ont refusé parce qu'ils disaient que c'était trop cher. Et la classe de ma fille a été dans l'obligation de le faire. Donc, on nous a imposé de donner une certaine somme à cette personne-là. Donc, moi, j'ai dit, c'est déjà pas approprié, j'ai trouvé que c'était un peu exorbitant. Et quand on voit le compte-rendu de ce qui est donné, c'est des feuilles A4. Le texte, c'est le texte, ils ont travaillé dessus. Mais c'est limite des papiers et des feuilles volantes dans un calepin.
Mais de toute façon, c'était pas obligatoire, Michael. Tout ça, c'est proposé par l'établissement, mais c'est le parent qui dispose.
C'était obligatoire. Donc, j'ai un deuxième signalement de l'établissement, disant que je voulais pas payer pour ma fille, en fait. Alors moi, j'ai bien expliqué à la juge quand j'ai passé devant, parce qu'elle m'a reproché ça. J'ai dit, mais écoutez, moi, ma fille, ça fait depuis l'âge de 2 ans, voire 3, que ma fille s'est très bien âgée, et je paye des cours, et c'est environ 200 € l'année. J'ai rien demandé à la maman, parce que la maman, elle l'a dit clairement qu'elle ne voulait pas se déplacer pour... Comment elle m'a sorti ça ? Par SMS. Qu'elle ne voulait pas... perdre son temps à mener sa fille à la natation. Voilà. Quand vous recevez des textos comme ça, alors que ça concerne le bien-être de votre enfant, et que derrière, on vous retire la garde de votre enfant, vous vous posez énormément de questions.
Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu, la juge, à ce moment-là, quand vous lui montrez le SMS ?
Quand vous avez au premier entretien de la JDE, la JDE vous dit... Donc la juge des enfants vous dit, Monsieur Lavallée, Monsieur, si vous voulez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Non, je suis d'accord avec vous sur certains points, mais pas sur tout. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Si vous ne vous taisez pas, vous verrez votre fille dans 4 murs avec 2 assistantes sociales. C'était en 2021. Et aujourd'hui, ma fille, elle est placée.
Et est-ce que vous la voyez aujourd'hui, votre fille ?
je vois ma fille une heure le mercredi entre quatre murs avec une psychologue et une
assistante sociale.
Enfin, une éducatrice.
Oui. Et votre ex?
La maman qui a été aidée pendant un an à retrouver son rôle de mère et que moi je vois plus ma fille, voit notre enfant, revoit notre enfant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Ah oui, donc elle la voit davantage.
Oui. Alors moi, pour éviter le conflit de loyauté par rapport à mon enfant, et oui. Ça, je suis d'accord, éventuellement qu'on puisse nous aider. Mon ex, moi, mon enfant a mieux allé pour qu'elle puisse retrouver quelque chose de plus serein pour elle. Mais comme je vous le dis, à la maison, ça se passe très bien et j'ai 45 témoignages de parents qui m'ont vu être avec ma fille, agir avec ma fille à la sortie d'école, dans des associations. Mes patrons, quand je travaillais en tant qu'assistant de vie, ils ont vu comment j'agissais avec ma fille, ce que je faisais pour ma fille.
Et Michael, qu'est-ce que l'ASE attend de vous pour commencer à assouplir son point de vue et pour vous repasser peut-être devant le juge?
Merci de poser la question. Merci de poser la question. Je fais le point parce que l'avantage que je puisse vous avoir, ça peut aussi donner des idées à d'autres parents de se battre. Donc, reproche fait d'être le père, le guide et le médecin pour ma fille. C'est des reproches, ce que je vous dis.
Oui, c'est-à-dire le père, bon, c'est logique, hein, vous êtes son père. Le guide, normalement, c'est un rôle d'éducation, donc un peu de guidance. Et le médecin, pourquoi vous ne l'emmenez pas faire des soins normaux chez le médecin?
Si. Et en fait, ma fille a un âge où elle change de physiologie. Et je m'en suis aperçu quand elle avait. Elle était déjà très jeune, on va dire. Et donc, j'ai pris la disposition pour voir les spécialistes qui sont passés à côté et qui me disaient que son état de jeune adolescente allait arriver vers 12 ans. C'est arrivé à 10 ans. Et moi, j'étais persuadé que ça allait arriver avant. J'ai mis donc c'est pour ça qu'en fait, ils se disent que je fais le médecin.
Bah oui, mais en même temps, vous l'avez emmené chez des spécialistes. Donc ce sont les médecins qui se sont prononcés. C'est pas vous qui empêchez.
Mais les médecins s'étaient trompés. Et moi, j'étais persuadé que ma fille était en train de changer. Et en fait, c'est tout simplement faire attention à son enfant, d'être présent, d'être à côté de lui, de faire tout ce qu'il faut pour qu'elle se sente bien dans les dispositions de parents, si on est attentif à son enfant, tout simplement. Et en fait, on me reproche d'être donc le père. C'est marqué noir sur blanc sur une ordonnance du juge que j'ai eue alors que je voulais récupérer ma fille le 23 février 2023 pour aller voir le match de foot à Lyon, l'équipe de foot féminine France-Allemagne. Et je voulais la récupérer pour pouvoir profiter de ce week-end-là. Et c'est marqué noir sur blanc que le père, ne remet absolument pas en question sa parentalité et se considérant comme le père, le guide et le médecin.
Donc aujourd'hui, je vous repose la question, Michael. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Que vous soyez suivi psychologiquement pour assouplir votre parentalité, justement. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous?
Ah, exactement, vous avez exactement raison. D'engager un suivi thérapeutique pour comprendre le mécanisme et les conséquences sur sa fille. Alors qu'avec moi, comme je vous le dis, elle était heureuse. Il y a plein de photos, de vidéos, de plein de choses qu'on a fait ensemble, des témoignages. Ils m'ont reproché d'être câlin avec mon enfant alors que je ne la vois pas de 15 jours. De lui faire un bisou, de lui faire un câlin, un gros câlin, qu'on se fasse des câlins, soi-disant sans son consentement. D'être attentif aux soins corporels de ma fille, de temps en temps lui amener ce qu'il faut pour elle, tout simplement. de dénigrer la maman devant elle, alors que c'est pas vrai du tout, parce que j'ai d'autres choses à faire que de parler de mon ex à ma fille quand je suis en entretien avec elle. Et donc de revoir forcément ma posture envers mon ex. Mais ma posture, elle dépend de qui elle est et comment elle agit. Donc en fait, au jour d'aujourd'hui, je suis en condamnation pénale. Elle a réussi à me mettre en condamnation pénale. Elle me demande 15 000 euros sur la liquidation judiciaire sans compter la plus-value. Elle a réussi à faire croire que je faisais du harcèlement. Donc en fait, la condamnation pénale. Elle a réussi à faire croire que forcément que j'étais un mauvais père et donc aujourd'hui ma fille est placée.
Et qu'est-ce qu'ils attendent qu'est-ce qu'ils attendent de la maman ?
Personnellement, je m'en fous.
Elle est fille unique. Elle est fille unique, votre fille ? Ou il y a d'autres enfants dans la fratrie, l'un ou de l'autre ?
Il y a un autre garçon qui est bientôt majeur, donc voilà. Pour lui, c'est voilà.
C'est le fils de votre ex ?
Oui, c'est son fils.
Et elle s'en est occupée ? Elle est une bonne maman avec lui ?
Je voudrais pas polémiquer là-dessus, mais ça, je veux pas non plus que voilà. Si vous voyez. Comment expliquer, je veux pas. Si après on dit que je dénigre encore la maman, moi je.
Non, mais je vous pose cette question parce que c'est un moyen de voir si elle est maternante ou non et quel genre de maternage elle met en place. C'est pour ça que je vous pose la question de l'autre enfant de votre côté ou du sien d'ailleurs.
Alors, en parlant de maternage, il y a une image qui me revient. Donc le fils de mon ex, ma famille était descendue, ma sœur était descendue en vacances ici, là où on vit, on était parti se promener près d'une rivière, et en fait, ce garçon s'était blotti contre ma sœur pour faire un câlin. Donc j'avais pris cet enfant et ma fille et ma sœur en photo. Et puis, je l'avais montré à mon ex, qui est devenue jalouse.
Il avait quel âge, son fils ?
Il devait avoir 5 ans ou 6 ans. Et en fait, elle est devenue jalouse parce qu'en fait, son fils, je ne veux pas le dénigrer quand je dis ça. Vous comprenez bien que je ne la dénigre pas. C'était son mode de vie et c'était son mode de vie avant et c'est comme ça.
Son fils s'est retrouvé proche de votre sœur, donc c'était un peu sa tante par alliance d'une certaine manière puisque vous étiez quand même avec elle et que vous avez eu une petite fille. Bon, il y a rien de grave là-dedans.
Oui, il y a rien d'exceptionnel. Sauf que quand il en faisait pas sa maman, et qu'elle. Les câlins allaient énormément vers la grand-mère, qui était gardée en permanence par la grand-mère. Que la grand-mère était appelée maman et que la propre mère de ce garçon était appelée par son prénom.
Ah oui, donc il y avait quand même des antécédents. Et la justice n'en a pas tenu compte.
Mais comment voulez-vous que la justice en tienne compte alors que les procédures sont bien plus tardives que ça ? Moi, je me suis aperçu de cette personnalité particulière 5 ans après. Ma fille était née. Donc, comment voulez-vous que je puisse réagir à ce genre de choses ?
Mais en même temps, quand vous vivez avec elle et le petit, même s'il est chez ses grands-parents très souvent, enfin chez sa grand-mère, vous voyez qu'elle n'est pas maternante, cette maman ?
En fait, on a eu une vie un peu particulière au départ. Donc en fait, j'ai des choses que... Moi, je partais à 6h du matin, j'entrais à 18h30 le soir. La vie de famille, à ce moment-là, on vivait chez les beaux-parents. Et cette vie de famille, entre guillemets, je ne la connaissais pas. Et je n'avais pas le temps de m'en occuper. Je rentrais, on passait un moment ensemble. Le petit allait dormir. Et puis nous, on était ensemble... en train de regarder la télé ou faire des activités, je ne sais quoi. Et donc, ce genre de choses. La vie à l'intérieur de la maison, je ne savais pas comment ça se passait. Donc, en fait, et quand on s'est vraiment mis en couple dans un appartement, là, j'ai vu qu'il y avait certaines choses qui ne me convenaient pas. Mais c'était déjà trop tard parce que ma fille était sur le point d'arriver.
Et Mickaël, et il n'y a pas des grands-parents qui pourraient accueillir votre fille aujourd'hui plutôt qu'elle soit placée en famille d'accueil ?
Alors honnêtement, je préfère pas. Je préfère pas parce que en fait, je préfère que ce soit des gens et que ce soit mes parents ou les grands-parents du côté de mon ex, que c'est pas leur rôle de s'occuper de mon enfant.
Vous préférez que ce soit une famille étrangère plutôt que des parents d'un côté ou de l'autre ?
Moi, personnellement, oui. J'explique pourquoi. Déjà, ça évite le conflit entre les parents. Voilà. D'avoir d'avoir des conflits entre les parents en disant, voilà, les parents, donc moi et mon ex. Oui, mais comment ça se fait que tes parents, ils ont réussi à avoir ça et que toi, t'as pas réussi à avoir ça, etc., etc. Ça, c'est que des sources d'ennui, comme là, le placement d'ailleurs, comme il a été mis en place. Et je veux pas les
mêler à tout ça. Mickaël, je vous propose de patienter quelques instants. On va faire une petite pause. C'est la pause info. Hein. Guillaume Larry vient de rentrer dans ce studio pour le flash. Et puis on se reparle dans quelques instants. À tout de suite. Le temps aussi pour moi de vous dire que vous pouvez retrouver Sonia Mabrouk pour le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos demain matin de 10h à 11h. Des entretiens sans concession, vous le savez, hein, tous les dimanches en direct de 10h à 11h sur Europe 1.